Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kautar Archi.
C'est parti!
C'était un tel tabou qu'on ne pouvait pas en parler pendant longtemps. Et puis, le Covid, Britney Spears et Simone Biles sont passés par là et les langues se sont déliées. On parle bien sûr de santé mentale. C'est quelque chose que l'on arrive même à revendiquer aujourd'hui. Alors on s'interroge, y a-t-il une libération de la parole? Quels sont encore les obstacles à surmonter? On va en parler dans cet épisode avec Kautar. Salut.
Salut.
Mais d'abord, les news féministes. Sachez que Michaela Coel est devenue la première femme noire à recevoir un Emmy Award pour scénario de sa série I May Destroy You. Sachez également que nos voisins suisses ont enfin légalisé le mariage pour tous et pour toutes. Voilà, il n'était pas trop tôt. Pour revenir à la question de la santé mentale, on a déjà consacré dans ce podcast un épisode à ce sujet il y a quelques temps, mais à la faveur des nombreuses discussions qui ont eu lieu sur le sujet cet été, on a décidé de revenir dessus et de s'interroger sur l'acceptabilité et peut-être la déstigmatisation de ces questions.
En effet, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être que nous pourrions essayer de comprendre un peu plus précisément ce que signifie l'expression, ce que l'on met derrière cette expression de santé mentale. Il est particulièrement difficile de retenir une définition unique, tant le travail de définition fait lui-même l'objet de débats entre chercheurs. Néanmoins, dans une perspective élargie, on peut se dire que dès lors que l'on parle de santé mentale, on entend désigner un ensemble de troubles psychiques. Et plus précisément, on lie la santé mentale non pas seulement à un simple état biologique, à un simple état psychique, voire à un simple état d'âme, mais bien à une question, c'est-à-dire à un ensemble social au sein desquels ces troubles apparaissent, mais plus encore un ensemble social qui entretient une relation complexe avec le dit psychisme. Parler de santé mentale, c'est donc parler de processus, c'est parler de normes, c'est parler de catégories, de catégorisation. C'est aussi bien sûr parler d'histoire, mais c'est aussi parler de pouvoir, de politique. C'est aussi parler de structure d'individus, bien sûr, mais aussi de rapports que ces individus entretiennent avec les institutions. On voit donc bien que ce qui relève ici du corporel, comme ce qui relève du mental, et cette catégorisation même peut faire l'objet d'un questionnement, s'inscrit pleinement dans un cadre socialisé. Un petit point contextuel peut-être, Clémentine, sur cette question?
Oui, alors d'abord, ça ne nous aura pas échappé. Un premier élément de réponse sur la manière dont la santé mentale est revenue peut-être sur le devant de la scène ces dernières années. Ce sont bien sûr le Covid et les confinements, puisque tout le monde, ou presque, se serait, si l'on en croit la presse et les réseaux sociaux, mis à méditer, à respirer à fond pour ne pas péter un câble. Cette épidémie, évidemment, elle a eu un certain nombre de conséquences. Déjà, 20% des personnes infectées par le Covid auraient des séquelles mentales, donc anxiété, etc., puisque c'est une maladie qui peut avoir un effet sur les fonctions neurologiques. Mmh. Ça, c'est selon l'Académie nationale de médecine. Il y a un an, en novembre 2020, une enquête de Santé publique France disait également que 20% des sondés souffraient de symptômes dépressifs. Il est vrai que le Covid a aussi aggravé des facteurs qui sont parfois associés aux problèmes de santé mentale, donc que ce soit la précarité, la perte d'emploi, etc. Tout cela à tel point qu'on a parlé de vagues psychiatriques à propos de cette déferlante de troubles anxieux. Je cite le psychiatre Serge Éphèse qui était interviewé sur France Info. Selon lui, on s'est enfoncé dans une vague psychiatrique à proprement parler, avec de la dépression, de l'anxiété, parfois même des troubles délirants, les consommations d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de médicaments psychotropes, plus les consommations d'alcool et de différents produits. Tout cela est totalement en hausse. Les tentatives de suicide également, et chez les plus jeunes. Voilà, fermez les guillemets. Tout ça n'est pas très gai. Cette épidémie a au moins eu l'avantage de démocratiser en partie, et il a bien fallu, les discours sur la santé mentale. D'ailleurs, beaucoup de gens se sont mis à raconter leur burn-out, leur dépression, et surtout, face à une épidémie mondiale, il est devenu beaucoup plus légitime d'être donc en PLS. Qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que le quoi qu'il en coûte s'applique à la santé mentale? Je ne crois pas. En tout cas, l'assurance maladie et les mutuelles travaillent en ce moment avec le gouvernement à de meilleurs remboursements des séances psy. Et ce n'est pas trop tôt puisqu'elles n'étaient pas du tout accessibles à tous et à toutes, ni socialement, ni géographiquement. Et dans un premier temps, les consultations pourraient être remboursées à 100% pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Ce serait l'année prochaine, en 2022. C'est un dispositif qui est déjà testé en région. Et pour l'instant, il y a déjà un forfait psy pour les enfants et ados jusqu'à 17 ans. C'est donc 10 séances remboursées qui est mis en place. Il faudra voir évidemment à l'avenir si ce dispositif fonctionne et s'il est réellement appliqué. Sachez également que les états généraux de la santé mentale et de la psychiatrie viennent d'avoir lieu. Donc on gardera un œil sur ces annonces et ces mesures.
La première fois dans notre pays, il y aura un numéro de téléphone que l'ensemble des Français pourra contacter. C'est le 3114. Il sera ouvert à compter de vendredi dans la journée et il permettra aux Français qui traversent un moment très difficile, avec parfois des idées noires, des pensées morbides, une tristesse, une dévalorisation de soi-même ou de profondes angoisses et qui ont peur, de pouvoir trouver immédiatement une réponse à leur malaise. En contactant ce numéro, ils tombent sur des professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, des psychiatres, des infirmiers spécialisés, des psychologues qui sont formés pour cela.
Évidemment, la discussion sur la santé mentale ne s'est pas généralisée. Pour autant, il reste des résistances, puisque ça reste parfois mal vu, notamment pour les hommes et les hommes hétérocis. C'est parfois considéré comme une preuve de faiblesse, quelque chose de féminin. Néanmoins, les hommes sont de plus en plus nombreux à consulter. Voilà, donc on peut se réjouir.
Ce qu'on remarque très clairement, c'est que c'est à partir du moment où la bonne société, entre guillemets, est elle-même atteinte par des difficultés psychiques, par des formes de troubles, que la question est progressivement posée dans le débat public. Mais même si cette question apparaît et semble progressivement attirer l'attention des autorités publiques, on peut néanmoins constater, comme le disait Clémentine, que des formes de stigmatisation demeurent, et ce sont des formes de stigmatisation qui vont atteindre des populations qui sont déjà soumises par ailleurs à d'autres formes de domination et de rapport de pouvoir. Le fait par exemple de considérer que ces troubles psychiques sont proprement le fait de la personne elle-même. Après tout, c'est son problème à elle, c'est son problème à lui. L'idée de la folie ici n'est pas lointaine d'une forme de stigmatisation potentielle. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dès lors que cette question se pose, c'est important à chaque fois de réussir à la poser en la corrélant avec l'expérience sociale, avec le vécu, avec les conditions d'existence et avec aussi les positions occupées. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler des formes de vulnérabilité plus fortes selon l'expérience sociale de l'individu. Et c'est bien cette responsabilité-là de la société qui doit être pointée pour qu'on ne se retrouve pas encore avec des processus de culpabilisation qui conduisent à juger des hommes et des femmes, parfois même des personnes plus jeunes, comme étant socialement défaillantes.
Justement, à ce sujet, il y a un vécu social particulier qui a vraiment attiré l'attention cet été, qui a cristallisé, en tout cas au niveau mondial, cette discussion sur la santé mentale. C'est l'affaire Simone Biles, sur laquelle on va revenir brièvement. Donc, pour les gens qui ne la connaissent pas, Simone Biles, elle a 24 ans et c'est la meilleure gymnaste au monde, tout simplement. Donc, c'est une jeune fille afro-américaine qui a été adoptée quand elle était enfant par ses grands-parents à Houston, au Texas. C'est là qu'elle a commencé à faire de la gym. À 16 ans, elle a gagné les championnats nationaux aux États-Unis. Elle a un peu tout raflé. Ensuite, elle a participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Elle a même inventé des figures que personne ne savait faire jusque-là. Et ensuite, elle est devenue la championne la plus décorée au monde. Entre-temps, a éclaté aux États-Unis le scandale autour de Larry Nassar, qui était le médecin de l'équipe nationale féminine de gym et qui s'est trouvé accusé par plus de 250 athlètes. C'est vraiment énorme le nombre de témoignages contre lui. Il a donc été accusé de pédocriminalité. Il a ensuite été révélé qu'il était protégé par la fédération de gym, donc c'est USA Gymnastics, et qu'il avait même été couvert par le FBI. Et lorsque cette affaire éclate, Simone Biles, qui a fréquenté de très près Larry Nassar, se rend compte qu'elle est elle-même une de ses victimes. Il faut savoir qu'il a été condamné à la prison à vie en 2018, et pendant ce temps, Simone Biles, de son côté, a fait une dépression, elle a beaucoup dormi, elle a fait une thérapie, ça n'a pas empêché de continuer la gymnastique. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un documentaire Netflix qui raconte cette histoire.
I just wanted to call you. I am very nervous talking to you about it, but I think it would help bring justice to the people who have been affected by USA Gymnastics and their policies.
Et en effet, cette année-là, tout a basculé. Aux entraînements, par exemple, pour les JO de Tokyo, elle est tombée de la poutre. Elle était particulièrement fatiguée, elle était particulièrement atteinte par ce qu'elle venait de subir. Et pendant les épreuves de cet été, elle a notamment raté, par exemple, des sauts. Elle n'a pas réussi à réaliser les figures sur lesquelles tout le monde l'attendait. Elle a annoncé par la suite qu'elle désirait se retirer de la compétition pour pouvoir s'occuper d'elle et s'occuper en particulier des troubles psychiques dont elle souffrait. Une énorme déception s'est faite ressentir et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une grande partie de la presse s'est acharnée sur elle en considérant qu'elle n'aurait pas été suffisamment forte pour subir la pression à laquelle elle était soumise. Novak Djokovic a même dit que la compétition était un privilège et qu'en tant que privilégié, il était absolument impossible d'abandonner quelque chose de cette valeur-là. Merci beaucoup Novak Djokovic pour ta contribution à ce débat. La jeune femme va par la suite prendre la décision de s'occuper d'elle. Et s'occuper d'elle, ça veut dire aussi s'occuper de son corps. Ça veut dire aussi faire en sorte de ne pas approfondir, de ne pas aggraver les blessures dont elle souffrait déjà. Et dans une conversation vidéo qui a été rendue publique le 31 août, elle explique « Le facteur stress s'est accumulé au fil du temps et mon corps et mon esprit ont simplement dit non. Mais même moi, je ne savais pas ce que je traversais. » Pendant cette période, jusqu'à ce que ça arrive. Je m'attendais évidemment à ressentir un gros contre-coup et beaucoup d'embarras. Mais c'est tout le contraire. C'était la première fois que je me suis sentie humaine. On rappelle qu'elle est une victime de violences sexistes et sexuelles et qu'elle doit, comme toute personne victime de cela, gérer les traumas qui sont les siens et être accompagnée. Ça a été une leçon pour bien des membres de la communauté mondiale du sport. On pourrait dire d'une certaine manière qu'elle a ouvert la voie. C'est passer d'une chose honteuse, d'une chose infamante, à quelque chose que l'on peut revendiquer, ou du moins quelque chose dont on peut faire état publiquement, tout en essayant de faire comprendre que ce qui est en jeu, ce n'est pas un problème individuel, mais bien un problème lié à l'organisation même de la structure et à la présence du patriarcat au sein même de cette structure.
Oui, il faut savoir que des auditions se tiennent en ce moment même au Sénat américain qui enquête sur tous les échecs retentissants de cette enquête autour de Larry Nassar et que Simone Biles a témoigné à la barre. On écoute.
It is the power of that statement that compels and empowers me to be here in front of you today. I don't want another young gymnast, Olympic athlete or any individual to experience the horror that I and hundreds of others have endured before, during and continuing to this day in the week.
Par ailleurs, une amie qui fait de la gymnastique m'a rappelé que selon elle, il s'agissait surtout d'une raison physique, physiologique et non pas psychologique. C'est ce qu'on appelle en anglais les twisties ou en français la perte de figure. Donc, c'est-à-dire une forme de déconnexion entre le corps et l'esprit. Mais j'ai l'impression que cette affaire a quand même permis d'ouvrir une vraie discussion au niveau individuel et aussi systémique sur ces questions-là. Ensuite, voilà, la question de savoir si la santé mentale est compatible avec le sport de haut niveau... Bon, c'est une question épineuse. Je suis pas certaine de pouvoir y répondre. Mais en tout cas, des nouvelles de Simone Biles qui est en tournée actuellement avec d'autres gymnastes. C'est la tournée Gold Over America. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, on est ravis pour elle. Quelques mois avant cette affaire, il y a eu un autre marqueur temporel. C'est l'affaire Naomi Osaka. Et là, ça s'est moins bien passé, évidemment, puisqu'on était en France.
En mai, effectivement, Naomi Osaka, je rappelle que Naomi Osaka, c'est une jeune joueuse de tennis. Elle est d'origine japonaise, elle a 23 ans et elle avait annoncé son refus de participer aux conférences de presse de Roland-Garros pour le bien de sa santé mentale. Elle a été sanctionnée, elle a dû payer une amende de 12 000 euros et elle a été menacée d'exclusion par l'organisation au moment où elle a annoncé son fameux désir de retrait. Elle a révélé souffrir de phases de dépression assez forte depuis l'US Open de 2018 et depuis sa victoire face à Serena Williams qui a été, je le rappelle, arrachée sous les huées du public américain.
I feel like for me recently like when I win, I don't feel happy. I feel more like a relief. And then when I lose, I feel very sad. And I don't I don't think that's normal.
Elle a notamment témoigné sur Instagram. Elle dit « Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introvertie. Et tous ceux qui m'ont vue lors de tournois ont remarqué que je porte souvent des écouteurs, car cela aide à atténuer mon anxiété sociale. » Une étude américaine de la Cornell University à New York en 2016 avait d'ailleurs prouvé que les journalistes sportifs questionnaient plus les joueuses sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport que leur homologue masculin.
CQFD.
CQFD. Elle a quand même, par ailleurs, été insultée. Elle a été traitée de jeune princesse arrogante par un journaliste américain suite à cela. Donc on voit ici à quel point, effectivement, le contexte social au sein duquel la jeune fille, les jeunes filles, voire les jeunes garçons sont placés, contribue à affecter l'ensemble de leurs capacités, l'ensemble de leurs performances, et le retrait apparaît souvent être comme une sorte de solution de survie.
Oui, alors autre pierre angulaire ajoutée à ces débats, ça c'était encore cet été, c'est la saga Britney Spears, et il nous fallait absolument, je pense, revenir dessus. Donc le documentaire Framing Britney Spears, qui est sorti cet été, raconte la mise sous tutelle de la chanteuse depuis 13 ans par son père, Jamie Spears. On se souvient déjà qu'en matière de santé mentale, l'épisode de la boule à zéro et du rasage de cheveux avait vraiment été l'un des marqueurs des années 2000. Et donc, après sa séparation avec son conjoint Kevin Federlein et un certain nombre de disputes autour de la garde de leurs enfants, suivie de deux épisodes en hôpital psychiatrique, un juge, à l'époque, a demandé sa mise sous tutelle. Et il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, elle était surtout harcelée par la presse et les paparazzi, et donc son existence était devenue invivable. Le problème, évidemment, est que cette mise sous tutelle va être de durée indéterminée et que ses conditions vont être très strictes. C'est donc son père et une administratrice extérieure qui vont avoir tous les droits sur ses biens et sur ses finances. En général, la mise sous tutelle, ça concerne surtout des personnes âgées, pas des gens aussi jeunes que Britney Spears. Il y a donc un caractère tout à fait exceptionnel. Et donc, elle a été enfin auditionnée au mois de juin au tribunal à Los Angeles, puisqu'elle demande l'arrêt de cette tutelle. Et donc, lors de ses auditions, elle a expliqué être vraiment traumatisée par de nombreux abus. Par exemple, être obligée de garder son stérilet, ne pouvoir voir ses enfants qu'une partie du temps, devoir demander l'autorisation pour un certain nombre de choses comme prendre l'avion, avoir été obligée de faire des concerts et de travailler sans son accord. On a appris cette semaine que sa chambre avait même été mise sur écoute par son père. Et c'est la première fois que Britney Spears s'exprimait publiquement sur ce sujet depuis des années. Demander effectivement ce qu'elle devenait et comment elle allait. Et d'ailleurs, les internautes se sont mobilisés depuis autour du hashtag Free Britney.
Effectivement, on se rappelle que le Free Britney a été, par exemple, associé aussi à l'idée de libération de la Palestine. Donc, vous avez peut-être pu voir sur Instagram apparaître le fameux hashtag Libérer Britney, libérer la Palestine. Cette histoire, elle est assez exemplaire de la manière dont on infantilise les femmes, dont on les prive de leurs droits, ce qui pose la question aussi de manière extrêmement précise de la protection juridique des personnes qui sont placées sous tutelle, puisque l'État intervient par la force du droit pour les priver de leurs droits, mais on se demande ce que l'État et ce que les autorités font pour faire en sorte que des droits malgré tout demeurent. Le droit, par exemple, de pouvoir se plaindre de la situation qui est subie. Et depuis cette affaire Britney Spears, deux députés de la Chambre américaine, l'une démocrate et l'autre républicaine, ont déposé une proposition de loi dans le but d'encadrer justement le régime en question et de rendre illégales les tutelles abusives qui peuvent être un cauchemar sans fin pour ceux et celles qui en sont victimes. Les femmes et les groupes minoritaires sont donc particulièrement exposés à ces risques du fait des formes de stigmatisation qui les visent et qui intègrent déjà, dès l'origine, le fait qu'elles seraient plus proches de la folie, plus proches de l'enfance, plus proches de l'immaturité et qu'elles seraient en elles-mêmes des êtres absolument incontrôlables qu'il faudrait bien réussir à contrôler, quitte à ce que cela emprunte le chemin de la violence. Des étapes dans l'existence peuvent donc à elles seules faire l'objet d'investissements particuliers, typiquement la maternité, On voit bien ici la manière avec laquelle les enfants de Britney Spears, par exemple, ont été utilisés contre elle, aussi dans le but de faire peser sur sa propre personne des formes de chantage affectif. Et en parlant de maternité, le postpartum, Clémentine, la question se pose évidemment.
Parlons-en. Effectivement, une nouvelle étape dans ces discussions sur la santé mentale, ça a été la prise de conscience des différents états, des différentes discriminations qu'on peut subir lorsqu'on est une personne enceinte. D'ailleurs, le hashtag « Mon postpartum » a été lancé sur les réseaux en 2020 par Ilana Weisman, Aïla Sora, Morgan Koresh et Macha Sacré pour parler des suites donc, de l'accouchement, des souffrances, de la guérison. Et il y a là-dedans aussi une partie plus psychologique autour de la solitude, le manque de compassion et plus généralement l'idée que l'on se fait de la maternité, puisque c'est censé donc, être le plus beau jour de votre vie et qu'en gros, une fois que votre enfant est né, on vous laisse complètement tomber et tout le monde se désintéresse de vous, alors que c'est là que les emmerdes commencent, en tout cas si l'on en croit ces personnes, puisque ce n'est absolument pas bien pris en charge. C'est un sujet dont on parle très peu. Et donc, Ilana Weisman a ensuite publié un essai intitulé « Ceci est notre postpartum » qui en parle très bien. Et on voit ici que ce qu'on a longtemps appelé de manière très condescendante le « baby blues » n'est pas simplement une chute d'hormones. Voilà.
Et c'est qu'en réalité, la société dans son ensemble cherche à garder le secret autour de ça, autour de cette période-là, comme si c'était honteux, comme si on ne voulait pas faire peur. Cette peur incroyable, il y a des réactions. Arrêtez, il va y avoir une baisse de la natalité, les femmes ne vont plus vouloir avoir d'enfants. Non, on n'est pas là pour faire peur. Ce hashtag, il est là pour informer, pour expliquer que c'est une réalité. Il faut être préparé pour le vivre plus sereinement et pour éviter justement ces nombreux cas. Il y a autour de 15% des femmes qui font des dépressions postpartum et c'est aussi lié à ça, à ce manque d'information, ce manque de préparation.
Et ce n'est pas un blues, ce n'est pas une simple mélancolie, ce n'est pas une simple tristesse. Et d'ailleurs, pour les personnes qui, en plus de l'ouvrage d'Ilana Weisman, souhaiteraient aller plus loin dans ces questions-là, vous pouvez aussi vous référer à l'ouvrage de la politologue Fatima Wasak dans son ouvrage intitulé « La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire ». Ce n'est donc pas simplement une question de nature féminine, ce n'est donc pas simplement une question de corps biologique qui déterminerait tout, qui ferait planer sur l'esprit une météo plutôt heureuse ou plutôt malheureuse. Ce serait bien au contraire la société dans son organisation, la société dans sa manière de catégoriser les individus et de les classifier, voire de les hiérarchiser, qui établirait cette distinction entre ce que signifie être une bonne mère, une mauvaise mère, et donc, en amont, ce que signifierait vivre une bonne grossesse ou une mauvaise grossesse. Et on voit là à quel point, encore une fois, la question des femmes, la question féministe, peut venir au secours de ce type de violence.
Et c'est en ce sens que nous allons instaurer, début 2022, un entretien postnatal systématique autour de la cinquième semaine après l'accouchement. Pour les femmes à risque, il sera suivi d'un second entretien autour de la 12e semaine. Et ce sera un jalon supplémentaire dans le parcours des jeunes parents. Et il permettra, je l'espère, de mieux structurer le suivi postnatal global.
Et à cela s'ajoute un certain nombre d'experts, d'expertes et de personnes concernées, qu'on pourrait appeler des activistes de la santé mentale et qui ont vraiment émergé ces dernières années et qui rappellent à juste titre les rapports historiquement très complexes entre la psychiatrie et les minorités. On connaît déjà l'exemple de l'hystérie au 19e siècle. On peut également évoquer la psychiatrisation des troubles de genre au 20e siècle, la pathologisation des personnes homosexuelles et trans, et tous ces processus qui s'accompagnent dans le monde médical d'un certain nombre de violences. Et donc aujourd'hui, un certain nombre d'activistes, de militants et de militantes neuroatypiques prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur TikTok, en parlant par exemple du spectre autistique, de la maladie bipolaire, du validisme, de la psychophobie. Et d'ailleurs, à les entendre, on voit qu'il y a autant de situations que de personnes concernées. mais néanmoins qu'il y a des violences systémiques et structurelles. Et des personnes racisées parlent également du droit à la santé mentale et de comment décoloniser la thérapie, puisque un certain nombre de soignants et de soignantes ne comprennent pas l'expérience racisée et donc rajoutent aux violences déjà existantes. On peut vous recommander de suivre des comptes comme Tape à l'air autiste, Autiste queer le docu, ou encore en anglais Depressed While Black et Therapy for Black Girls. Il y a également un texte de Paul B. Preciado, c'est Je suis un monstre qui vous parle, qui est un discours qu'il a adressé justement à des psychanalystes lors des journées internationales de l'école de la cause freudienne à Paris, et il oppose sa condition d'homme trans à donc des dizaines d'années de pensée psychanalytique. On l'écoute.
Depuis le 16 novembre 2016, je suis détenteur d'un passeport avec un homme et un sexe masculin. Et il n'y a donc plus d'obstacles administratifs à ma liberté de mouvement, ni à ma possibilité de prise de parole.
Alors aujourd'hui, le virtuel a en partie pris le relais avec des téléconsultations, des applications et des smartphones, et donc un certain nombre de thérapies en ligne qui se développent. Selon Spotify, les podcasts en santé mentale ont également connu une véritable explosion en termes d'écoute, surtout auprès des millennials et de la génération Z. Et dans les podcasts, on peut aussi vous recommander le podcast No Feeling is Final, qui dépeint le processus assez chaotique pour trouver le bon traitement et les limites de demander de l'aide à autrui, sans parler des obstacles pour réussir à surmonter nos démons intérieurs. Voilà, on vous le recommande. Il y a également un certain nombre de comptes Instagram, par exemple Freud Intensifies ou Millennial Therapist, puisque selon le magazine Elle, Instagram serait le nouveau divan des psys. Et justement, à ce sujet, on va écouter Anna du compte Instagram La Psy du Futur nous parler de ses activités.
J'ai l'impression que cet intérêt pour la santé mentale, il a commencé, je dirais déjà depuis quelques années, notamment sur les réseaux sociaux et en particulier dans les sphères militantes comme dans les luttes féministes ou les luttes LGBT. Il y avait un réel intérêt de la part des personnes qui s'exprimaient et qui souvent militaient sur les réseaux sociaux pour la santé mentale. On parlait beaucoup du fait de prendre soin de soi, de se préserver, notamment lorsque l'on milite, mais aussi par rapport aux oppressions que l'on peut vivre dans la société, avec des gens qui prenaient la parole pour partager leurs difficultés dans la vie quotidienne, de la souffrance qu'ils pouvaient ressentir, dans des situations de la vie quotidienne, comme par exemple au travail, mais aussi en lien avec des oppressions qu'ils pouvaient ressentir dans la société, comme le racisme, le sexisme, etc. Et puis aussi en lien avec des injonctions de la société. Et les espaces et les facteurs qui ont fait qu'on a pu s'intéresser de plus en plus à la santé mentale au cours de ces dernières années, dans le militantisme, il ne faut bien évidemment pas oublier de parler des violences sexuelles. Le fait que la parole sur les violences sexuelles se soit ouverte, ça a également énormément contribué à parler de santé mentale, puisqu'il ne faut pas oublier que une grande partie des difficultés de santé mentale à l'heure actuelle est d'origine traumatique. Donc l'ouverture de la parole, la libération de la parole sur les violences sexuelles et sexistes, c'est également quelque chose qui a énormément contribuer en fait à parler de santé mentale, de conséquences des traumatismes, d'émotions difficiles que l'on peut ressentir au quotidien et du coup de recherche d'un mieux-être et d'une guérison. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même dire que sur les réseaux sociaux, on entend aussi beaucoup parler de bien-être, de développement personnel, etc. Et ça peut être une bonne chose. Mais lorsque l'information est floue, qu'elle est peu rigoureuse et surtout qu'elle est accompagnée d'injonctions, là, c'est plus embêtant parce que là, on n'est plus dans la santé mentale, c'est plus du contenu éducatif. Et les personnes qui me suivent, elles font bien la différence. Et c'est très révélateur parce que de plus en plus, on est face à des jeunes qui veulent avoir des moyens d'agir, d'être acteurs de leur santé mentale et de faire face à leur propre vulnérabilité pour travailler dessus. C'est-à-dire que le fait de reconnaître cette vulnérabilité, c'est pas juste dans le but de d'être dans quelque chose de l'ordre de la plainte, ce qui est pas du tout un problème en fait en soi, hein, mais c'est aussi dans le but de travailler dessus, de s'améliorer, d'améliorer ses relations avec les autres. Et le fait de faire une thérapie, par exemple, c'est de plus en plus perçu comme quelque chose de courageux, le fait d'affronter ces démons que parfois, par exemple, ses propres parents peut-être traînaient déjà, des blocages et des souffrances qu'il pouvait y avoir dans la famille, mais que les générations d'avant n'ont pas été capables d'affronter, n'ont pas pu, n'ont pas eu la possibilité, et bien que ces nouvelles générations vont vouloir en fait ne pas rester impuissants face à ça, mais au contraire avancer. En ce qui concerne le genre et la santé mentale, on voit en effet une nette différence au niveau du genre chez les personnes qui viennent consulter. Il y a une nette majorité de femmes qui font les démarches pour faire ce travail émotionnel sur elles-mêmes et globalement des hommes qui sont encore réticents, probablement à cause de stéréotypes de genre et qui ont du mal à premièrement se rendre compte de leurs difficultés, de leurs propres émotions et ensuite d'accepter d'y faire face. Après, je fais des généralités, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les métiers du soin, ce sont des métiers de l'individu, de l'individuel. Nous, on traite des individus, donc évidemment, il y a autant de cas que de personnes, mais on peut quand même dégager des tendances. Les femmes sont globalement plus nombreuses à faire ces démarches et à faire ce travail de care, parce que même quand les hommes viennent consulter, bien souvent encore, ils viennent consulter parce qu'une femme de leur entourage les y a encouragés.
Merci Anna pour ce témoignage. Alors on va parler de notre expérience personnelle en termes de santé mentale. Qu'est-ce que tu en penses toi, Kauta ?
Alors c'est une question que je connais principalement d'un point de vue, on pourrait dire, critique et sociologique. J'ai beaucoup lu sur ces questions puisque, encore une fois, par rapport aux populations minoritaires, on voit bien qu'il y a un traitement spécifique du côté de l'institution médicale et cela est lié aussi, bien sûr, à la question coloniale, c'est-à-dire à la manière dont la médecine a pu aussi se développer en recherchant des corps sur lesquels faire des expériences. Donc tout ça participe des débats contemporains qu'on peut avoir aujourd'hui dans ces différents domaines. Et bien évidemment, comme beaucoup de personnes, voire même peut-être comme tout le monde, la crise sanitaire a fait émerger des formes de failles, des formes de difficultés, des formes de terreau entre guillemets sur lesquels des angoisses ont pu prospérer, que ce soit dans le cas de ma propre situation, puisque j'ai dû à la fois vivre la période du Covid et continuer à écrire mon livre, ce qui a été particulièrement complexe, mais qui en même temps a sûrement été aussi moins complexe que bien d'autres situations. Et comme beaucoup, encore une fois, j'ai pu observer à quel point ces thématiques pouvaient émerger, notamment du côté des étudiants, par exemple, dont la situation a été d'autant plus grave qu'elle n'a pas forcément immédiatement été prise en charge par l'État, qui a décidé que c'était plutôt aux familles des étudiants de prendre le relais, familles qui sont elles-mêmes en vérité déjà dans des situations de difficulté, voire de précarité.
Alors moi, de mon côté, je suis une cliente très fidèle d'une application qui s'appelle Headspace, qui est en fait le petit bambou anglo-saxon. Et j'ai bien compris que si j'étais née à un autre siècle, j'aurais sans doute été enfermée dès la première crise d'angoisse. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, avec la rentrée, tout le monde autour de moi a parlé assez ouvertement d'être très angoissée. Je trouve ça assez sain, assez salutaire. Personnellement, je me suis déconnectée d'Instagram cet été. C'était la première fois et franchement, c'était trop bien. Je vous recommande. Puisque c'est vrai que Instagram, je pense, contribue en partie au mal-être psychique, mais aussi à mon bien-être, puisque je suis un certain nombre de comptes Instagram. Par exemple, Anxiety Josh, qui fait beaucoup de posts sur l'anxiété, assez drôle. Et après, je me fais pas d'illusions sur la manière dont les questions de santé mentale sont appropriées par le capitalisme, notamment des entreprises qui font faire du yoga et de la méditation à leurs employés au lieu de mieux les payer. On vous voit. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait un papier sur pourquoi on... c'est-à-dire les hommes cis hétéros. On dit toujours que nos ex sont folles.
Le titre génial.
Bah, je m'étais posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi on utilise tout le temps cette expression ? Spoiler, c'est le patriarcat. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi prendre en compte dans nos milieux le fait que beaucoup de personnes ont subi des violences et sont fragilisées. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, je pense, dans les milieux féministes. Donc il faut pas pathologiser l'engagement politique, bien évidemment, mais il faut quand même prendre en compte cette donnée-là. Je pense qu'il faut quand même le redire. Après, en ce moment, j'ai l'impression que parfois on tombe dans l'excès inverse. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à parler de ses problèmes sur les réseaux sociaux, comme si c'était presque devenu une injonction. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait de dépression, on est une mauvaise féministe. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, aller mal, ce n'est pas une compétition. Si vous allez bien, c'est cool aussi. Donc voilà, prenez soin de vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la journée mondiale de la santé mentale, c'est le 10 octobre. Donc voilà, j'espère qu'il va se passer des choses ce jour-là. Surtout si, comme nous tous et nous toutes, vous souffrez aussi d'éco-anxiété.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Alors, on va passer à la pop culture.
Du point de vue de l'histoire de l'art, ce qui est assez intéressant, c'est que si on s'intéresse un peu aux grandes figures qui composent notre panthéon, on se rend compte que souvent, ce sont des hommes. Ce sont des hommes plutôt bourgeois, ce sont des hommes plutôt blancs, plutôt âgés, qui sont parvenus à obtenir des formes de consécration assez fortes. Mais si on élargit un peu les recherches et si on s'intéresse un peu aux femmes qui les ont entourées, que ce soit les mères, que ce soit les épouses, que ce soit les sœurs, les filles, etc., on se rend compte assez fortement que de nombreuses femmes parmi celles-ci ont été enfermées, ont été accusées d'être folles, ont été accusées de souffrir de maux qui étaient susceptibles de provenir d'un esprit malsain. Et je vous conseille notamment, par rapport à ces questions-là, de vous reporter au travail de Laure Murat. Elle évoque notamment la figure de Camille Claudel, s'il fallait en choisir une parmi ces nombreuses femmes, pour montrer à quel point la pathologisation de ces figures féminine est assez fortement liée à la puissance masculine qui est déléguée aux hommes qu'elles ont accompagnés, qu'elles ont suivis artistiquement parlant.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, autour de ces thématiques-là, il y a une bande dessinée aux éditions Glénat qu'on peut recommander autour de Nelly Bly. Nelly Bly, c'est vraiment la pionnière du journalisme gonzo. Hein, donc, ce ne sont pas des hommes qui ont inventé ce genre. Ça, c'était au début du XXe siècle. Et donc, cette bande dessinée suit un reportage de Nelly Bly dans un hôpital psychiatrique de New York, dans lequel elle s'est faite enfermer à dessein pour pouvoir en dénoncer les conditions. Là-bas, elle rencontre des femmes célibataires, des femmes rejetées, des femmes pauvres, des femmes épileptiques, des femmes étrangères qui sont toutes maltraitées les unes comme les autres. Et grâce à son article, la ville de New York va réagir et prendre des mesures. D'ailleurs, Nelly Bly a elle-même eu le plus grand mal à être sortie de cet asile dans lequel on voulait l'enfermer. Voilà, donc c'est très intéressant. Et au cinéma, enfin plutôt sur Amazon Prime, on peut voir en ce moment l'adaptation du Bal des Folles, qui était donc un roman de Victoria Mas sorti en 2019. Et qui a connu un beau succès de librairie.
Où sommes-nous ?
Je ne reconnais pas le...
Oh non, pas ça.
Pas la salpêtrière ! Pas la salpêtrière !
Non, pas ça.
Le bal en question, c'est celui organisé chaque année par l'hôpital de la Salpêtrière à Paris pour exhiber aux yeux d'une foule mondaine des internés. Donc c'est une histoire qui est vraiment incroyable, que moi je ne connaissais pas en tout cas. Et ce film suit une jeune femme de bonne famille qui croit communiquer avec les esprits et qui va être enfermée de force par son père. Et là, on va donc découvrir tout l'éventail des horreurs du 19e siècle, le tout sous la supervision de Charcot, puisque l'asile, donc tu l'as dit, c'est là où on mettait les femmes au rebut, les femmes épileptiques, les femmes trisomiques, mythomanes, meurtrières, etc. Donc un peu tout le monde, sur fond de théories fumeuses sur l'hystérie. Et donc ces femmes vont être pas du tout soignées, mais plutôt torturées, frigorifiées, etc. Et donc le film raconte le trajet de cette jeune femme, et à travers ses rapports avec une infirmière qui est jouée par Mélanie Laurent, qui réalise donc ce film, certes assez académique, mais assez utile historiquement. Et c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi dans la série American Horror Story, l'hôpital psychiatrique ou l'asile, comme on l'appelait jadis, est vraiment le lieu du genre horrifique.
Oui, et celui de la relégation sociale des personnes qu'il faut bien, ne serait-ce que spatialement, éloigner des populations majoritaires et perçues comme mentalement et physiquement saines.
Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
Le succès en thérapie pendant le confinement, par exemple, ne doit rien au hasard. La série a été particulièrement regardée. C'est une série qui a été diffusée sur Arte, adaptée par Toledano et Nakache, le fameux duo, à partir de la version originale qui était le fait de Hagai Lévy. Dans la saison 2, on retrouvera des figures comme Suzanne Lindon ou Charlotte Gainsbourg et on y parlera justement du Covid. À suivre.
Ça tombe bien. Et c'est vrai qu'à la télévision, la santé mentale, ces dernières années, c'est un peu devenu le gros thème des séries et des récits. C'est presque un passage obligé. À ce sujet, on peut citer Fleabag, Girls, évidemment Crazy Ex-Girlfriend, mais aussi Euphoria. Dernier exemple en date, une série dont on a déjà parlé ici, c'est This Way Up, qui a été créée et jouée par Ace Lingby avec Sharon Horgan. Et ça suit une jeune prof à Londres qui sort de dépression, qui sort de l'hôpital et qui essaie péniblement de remonter la pente. Hein. D'ailleurs, c'est bien le titre de la série, par ici la sortie. On peut également citer en France Mental, qui est une série sur des ados internés dans une institution psychiatrique. Voilà, je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu du bien.
Les célébrités, les chanteuses, les stars en particulier parlent de plus en plus de cette question-là en tentant de la déstigmatiser. On peut par exemple se souvenir de Billie Eilish et de son album Happier Than Ever qui a parlé justement de la dépression qu'elle a vécue à l'adolescence, mais aussi des formes d'anxiété, du fait qu'elle n'aimait pas son corps, du fait qu'elle se faisait du mal.
Et alors dans les références que l'on peut vous recommander, il y a également l'ouvrage Pop and Psy de Jean-Victor Blanc et en anglais le podcast Mad Chat qui est porté par Sandy Allen, une autrice trans et non-binaire qui travaille sur le système de santé mentale aux États-Unis et son rapport à la pop culture. Il y a par exemple un épisode où le comédien Yassir Lester analyse les représentations de l'expression émotionnelle masculine dans Batman. Voilà.
Les recommandations culturelles
de Croix de Meuf.
Alors cette semaine, qu'est-ce que tu nous recommandes, Kaouta ?
Cette semaine, je vous recommande d'aller voir au cinéma bientôt le documentaire de la réalisatrice Lina Swalem, un documentaire qui s'intitule « Leur Algérie ». C'est un documentaire où elle revient sur son histoire familiale en tentant notamment de comprendre ce que signifie la séparation de ses grands-parents, grands-parents qui ont été mariés pendant plus de 60 ans.
Et le film sort le 13 octobre, on ira le voir.
Et toi Clémentine, quels sont tes recos ?
Alors moi c'est une série diffusée sur OCS qui s'appelle Scenes from a Marriage, encore une série sur des riches blancs qui vont mal, décidément. C'est une élégante adaptation de Scènes de la vie conjugale, donc d'Ingmar Bergman, qui avait soi-disant à l'époque causé un certain nombre de divorces en Suède. Elle est le fait de l'Israélien Hagai Lévy que tu viens de citer, donc qui est l'auteur du En thérapie originelle. Et c'est une série qui ausculte avec pas mal de doigté les déboires conjugaux d'un couple bourgeois qui s'aime de longue date, qui se quitte, qui se retrouve et qui se déchire au fil des années. Il met en scène Jessica Chastain et Oscar Isaac et par rapport à la version originale, la femme a pris la place de l'homme cette fois-ci, ce qui est d'autant plus croustillant et je pense que c'est parfait pour débriefer à deux ou à plus le nouvel essai de Mona Cholet, Réinventer l'amour, dont on parlait dans un épisode précédent. Voilà. Alors j'espère qu'on a fait le tour des questions de santé mentale. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. À ce sujet, vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux et nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode court où l'on parlera d'une pionnière du cinéma, c'est Alice Guy. Voilà, merci. Salut Kaouta. Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo,
journaliste chroniqueuse Kaouta Archi,
montage et mixage Laurie Galigani, prise de son Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jaunin.